J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'un homme qui lève les yeux au ciel. Ce ciel étoilé, ce ciel d'été au-dessus de sa tête, lui semble une aubaine pour oublier ce qu'il faut bien appeler une journée de merde. Comme s'il se fuyait, oubliait ses soucis dans la contemplation de l'infini. Il en a le souffle coupé. À force de vivre en ville, il ne voyait plus le ciel étoilé depuis longtemps, et la Voie lactée n'en parlant même pas. Mais là, par cette nuit parfaite, en plein cœur de ce parc du Mercantour, il se retrouve comme un gamin ébloui, allongé dans l'herbe, les mains derrière la tête et le cœur en joie. Il sait que certaines étoiles sont mortes depuis bien longtemps, mais que leur lumière ne lui parvient que maintenant. Et ça lui ouvre l'âme d'imaginer qu'il a devant les yeux le passé, qu'il a devant les yeux ce qui n'est plus. Immobile, les yeux grands ouverts, le voilà parti des années en arrière. 13,8 milliards d'années pour être un peu précis. Si l'univers ne cesse de s'étendre, c'est donc qu'il a été plus petit, et que plus nous remontons dans le passé, plus il est petit, de plus en plus petit, jusqu'à tenir dans une tête d'épingle. Mais comment est-ce possible ? Comment le gigantesque, l'immense, tellement immense qu'on ne peut même pas se le représenter, a-t-il pu un jour tenir dans une tête d'épingle ? Et de quelle nature est la force, si c'est une force, qui a fait sortir de cette tête d'épingle l'immensité des mondes ? Faut-il s'appeler Dieu pour avoir ce pouvoir ? Mais pourquoi donc toujours nommer Dieu ce que nous ne savons pas nommer ? Il est toujours allongé dans l'herbe, mais voilà qu'il se sent tomber, partir. C'est le vertige, un appel aussi, peut-être même une vocation. Il se dit qu'il va consacrer sa vie entière à étudier ce mystère, et soudain, il se sent chez lui, comme jamais, au milieu du cosmos. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Il entend autrement cette chanson de Cabrel. Les étoiles entre elles ne parlent que de nous, poussière d'étoiles, contenant dans nos corps des atomes ayant germé dans le laboratoire en fusion des étoiles. Les étoiles entre elles lui parlent aussi de lui, de sa décision. Il va devenir un chasseur de poussière d'étoiles et en les contemplant, moins chercher à se fuir comme on le craignait au début, qu'à se retrouver et sa journée pourrie va devenir le plus beau jour de sa vie. Pour en parler ce matin, de ces étoiles et de l'odyssée cosmique qui va d'elle à nous, pour en parler ce matin et commencer cette nouvelle année la tête dans les étoiles, j'ai la joie de recevoir un astrophysicien qui lui ressemble un peu, Éric Lagadec, dont le nom en breton signifie « grand œil », auteur récemment au seuil de l'odyssée cosmique. Éric Lagadec, donc, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon pour nous conter l'histoire intime des autres étoiles et nous aider à répondre à cette belle question. En regardant les étoiles, que découvrons-nous de nous-mêmes ?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Éric Lagadec.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en ce 1er janvier pour nous parler du ciel étoilé, des étoiles, de cette poussière dont vous êtes un des spécialistes. Mais je vous posais tout de suite une question un peu frontale. Si je vous demandais ce que ce ciel étoilé nous dit de nous, par exemple de nous deux là, qu'est-ce qu'il nous raconte ?
De nous, je ne sais pas, de nous deux particulièrement, mais je pense que ce qui m'impressionne le plus dans le ciel, c'est se dire que l'humanité, en l'observant justement, a pu comprendre ses origines. Et ça, c'est... Il y a deux choses hallucinantes, en fait. On est le fruit d'une odyssée cosmique, comme vous venez de le dire, ouais, qui a commencé à 13,8 milliards d'années.
C'est d'ailleurs le titre de votre livre, et... sous-titré « Une histoire intime des étoiles au seuil ».
Donc, il y a cette odyssée en soi qui est hallucinante, qui est pour moi l'histoire la plus incroyable jamais contée. Mais ce qui est encore plus incroyable à mes yeux, c'est que l'être humain, avec son intelligence collective, en observant ce ciel, a pu comprendre ses origines. C'est-à-dire qu'en regardant ces étoiles, on peut voir d'où on vient. Moi, je trouve ça extraordinaire.
Ah, c'est vrai que c'est fou. Et d'ailleurs, je me souviens de Hubert Reeves qui disait « Il faut le regarder surtout avec ses yeux, plus qu'avec un télescope ». Vous vous souvenez de cette affirmation quand il dit « Voilà, on a un instrument scientifique dingue en nous, c'est les yeux ».
Oui, c'est ce que font les êtres humains depuis des générations. Je pense que j'aime bien dire que le ciel étoilé, c'est le plus vieil héritage commun de l'humanité. Et tous les soirs, je regarde les étoiles et je me dis qu'il y a des générations d'humains depuis des millénaires qui font la même chose et qui voient le même ciel, qui se sont racontés des histoires.
Tous les soirs ?
Tous les soirs, ouais. Parce qu'il n'y avait pas de pollution lumineuse à l'époque, donc c'était pratique.
Alors ce qui est particulier dans votre cas, c'est que vous êtes notamment très actif sur Twitter. Pourquoi je dis ça maintenant ? On pourrait dire que ce n'est pas central dans votre biographie, mais parce que vous avez dit « c'est ce que nous avons en commun ». Le ciel étoilé. Or, Twitter, c'est le lieu du pugilat, des crispations identitaires, de la violence polémique. C'est Twitter qui s'appelle maintenant X, d'ailleurs. Et vous avez choisi, à mon avis, c'est un peu fait exprès, comme si c'était politique, vous auriez pu être sur Insta, sur Facebook, vous êtes surtout sur Twitter. Est-ce que c'est une façon de dire « calmons-nous un petit peu, mettons-nous de très loin pour relativiser nos conflits et regardons ce que nous avons en commun ?»
Quand ça a commencé, c'était plus ou moins un accident, en fait. L'idée, c'est que j'ai toujours voulu partager le ciel. Et je me suis rendu compte sur Twitter que j'ai fait quelques posts et ça commençait à faire plaisir aux gens. Et donc, je me suis dit, c'est une bonne façon d'expliquer non seulement l'astronomie, mais je pense que ça va bien au-delà, justement, c'est... Pour moi, l'astronomie, c'est une porte d'entrée vers la méthode scientifique. Donc, on vit dans une société qui est face à d'immenses défis. Et ces défis sont scientifiques et on a un manque de culture scientifique. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps. Et sur Twitter, je me suis rendu compte que ça marchait bien. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre pendant plus de 10 ans. Twitter, c'était un endroit où je voyais des gens s'engueuler.
Ouais.
Et là, je me suis rendu compte que je mettais des images qui faisaient rêver, qui avaient des explications derrière. Et les messages que je recevais, justement, c'est, ça fait du bien sur Twitter d'avoir des choses positives. Et ça fait un petit peu réfléchir un petit peu à notre condition humaine aussi, pourquoi on est là, comment on est là. Ouais. Je pense qu'on a besoin de ça, on a besoin d'évasion, surtout dans les temps qu'on vit.
Mais d'ailleurs, même le mot Big Bang, il vient d'un accident. Ça, on ne sait pas souvent. On pense que ça a été fait exprès. En fait, je crois que c'était une moquerie.
Exactement. Donc, c'était à la BBC, à la radio aussi, mais à la radio britannique. Donc, le Big Bang, souvent, on l'attribue à Hubble, un astronome américain. Mais le Big Bang a été expliqué par un abbé belge, l'abbé Lemaître.
Ouais.
Donc ça posait forcément des problèmes à quelques athées d'avoir un abbé qui invoquait une création de l'univers. Donc il y avait l'astronome britannique Fred Hoyle qui croyait pas du tout.
Ouais.
Et en se moquant de l'abbé Lemaître à la BBC, il a dit « Ouais, c'est comme s'il y avait eu un gros bang », donc il appelait ça le Big Bang et le mot est resté.
C'est marrant, hein. Ouais. Comme quoi parfois il y a des accidents vertueux, quoi. Mais alors, parlons-en un petit peu de ce Big Bang. On peut pas... tout expliqué dans une émission de radio, mais je vous ai entendu une fois dire quelque chose qui m'a marqué, c'est que sur nos téléviseurs de quand on avait 10-15 ans, si on a en gros un peu comme nous là 50 ans à peu près, on se souvient qu'on voyait des petits points noirs et blancs un peu agités, et ça vient directement du Big Bang. Expliquez-nous ça.
En fait, il faut savoir que donc quand il y a eu le Big Bang, l'univers était extrêmement dense. Vous avez parlé tout à l'heure de l'univers dans une tête d'épingle, c'était quelque chose de très petit. C'était tellement dense que la lumière pouvait pas en sortir. L'univers est en expansion, il a grandi, et au bout de 379 000 ans, il était moins dense, la lumière a pu s'en échapper, donc il y a une lumière qui est partie il y a 13,8 milliards d'années, qui est dans toutes les directions. Et ça, c'était une prévision forte du Big Bang, et il y a deux astronomes américains qui voulaient observer la Voie lactée dans notre galaxie avec un radiotélescope. Ils l'ont fait de manière très précise, et ils trouvaient un signal dans toutes les directions, ils ne comprenaient pas. Au départ, ils se sont dit, c'est peut-être les fientes de pigeons qu'il y a sur le télescope. Dans l'article scientifique que je suis allé lire, ils ont parlé de produits diélectriques blancs. C'est une façon polie de parler de fientes de pigeons.
Ouais.
Et finalement, ils se sont rendus
compte... Poli et poétique.
Poétique, voilà. Et ils se sont rendus compte que ce signal était réel. Donc ce signal, ils ont découvert la lumière émise après le Big Bang.
Ah oui, mais attendez, si j'ai bien compris, en fait, cette lumière... Elle vient pas du Big Bang, elle vient de à peu près
379 000 ans après
c'est
le Big
ça,
Bang.
C'est ça, voilà. Et donc ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'il y a eu entre le Big Bang et ces 300 000 ans, c'est ça.
On sait, il y a des modèles qui marchent assez bien, on explique comment on a formé les premiers atomes. Et pour revenir à l'histoire de télé, ce qui est rigolo justement, c'est que c'est pas tout le signal, c'est une petite portion, quelques pourcents de ce signal venaient justement du Big Bang. Donc quand vous aviez une télémane réglée, vous pouviez dire qu'on regardait le Big Bang. Et c'est peut-être mieux que regarder une télé bien réglée suivant les émissions que vous regardez.
Ouais. Alors je précise que vous êtes aussi assez drôle, vous faites des spectacles, notamment vous êtes un astrophysicien un peu différent, vous jouez de la guitare, vous chantez, vous faites des spectacles avec Guillaume Meurice dans des salles avec parfois des milliers de personnes. D'ailleurs j'annonce que vous êtes le 20 janvier à Dijon dans ce spectacle avec Guillaume Meurice qui s'appelle « Vers l'infini mais pas au-delà », vous serez aussi le 2 février à Grenoble. Mais revenons au Big Bang et à cette origine. Est-ce que c'est vrai, si je dis que dans nos corps à nous, là, tous les deux, il y a, je dirais, des atomes d'hydrogène et d'hélium qui viennent du Big Bang réellement ?
Exactement.
On en est sûr dans tous les corps ?
Dans tous les corps, dans tout ce qu'il y a autour de nous, là, tout ce qu'il y a dans cette cave, tout a été produit, enfin tous les atomes d'hydrogène... ont été produits au moment du Big Bang.
Ouais.
Le Big Bang a aussi créé des atomes d'hélium. Donc il y a des choses en nous qui ont 13,8 milliards d'années.
Et est-ce que vous croyez que ça a du sens d'interpréter à partir de là le sentiment d'éternité qu'on a parfois, presque sensuel, je dirais, presque physique. Moi, en tout cas, ça m'arrive, je pense que je ne suis pas le seul, d'avoir l'impression d'une sorte d'éternité, que même si je vais mourir, quelque chose en moi ne va pas mourir, et sans parler de Dieu. Est-ce qu'on pourrait l'interpréter comme ça ?
Oui, bah, tout ce qui nous constitue va repartir ailleurs. D'ailleurs, c'est intéressant, là, j'ai un verre d'eau, et je me dis que l'eau qui est dans ce verre, elle a sûrement été bu par des personnages célèbres il y a plusieurs siècles.
C'est la même eau ?
Quelques molécules d'eau qui sont dedans, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que tous nos atomes ont des milliards d'années. J'ai pas le chiffre exact, mais tous les ans, on recycle à peu près 90% de nos atomes, donc on reste la même personne, alors qu'on est constitué d'atomes différents.
Ah, bien sûr. Oui, donc ça, c'est aussi, donc c'est vrai que finalement, j'avais entendu une étude qui disait qu'en 7 ans, il n'y avait plus rien de commun dans un corps humain, qu'il fallait 7 ans pour que toutes les particules soient régénérées, c'est vrai en fait.
Bah, c'est ça, c'est le principe du vivant, on est vivant parce que justement on mange, on boit, et c'est ça qui nous donne de l'énergie, ça repart. Et on reste la même personne alors qu'on est constitué d'atomes différents.
C'est, quand même une... c'est exactement ce qu'il est dit du bateau de Thésée dans la mythologie grecque. En fait, il y a ce bateau de Thésée, il est réparé sans cesse, toutes les pièces sont réparées, la roue, la quille, tout, et puis il n'y a plus rien de commun, mais ça reste le bateau de Thésée. Et vous, vous restez Éric Lagadec.
Exactement.
Alors, revenons à ce que j'ai découvert en écoutant vos conférences et en lisant votre très bon livre, L'Odyssée cosmique. Il n'y a que 2 atomes qui ont été produits par le Big Bang.
C'est un peu plus complexe, mais principalement 2 atomes. Donc, c'est les atomes les plus simples, les atomes les plus petits. Donc, comment on crée des atomes? Il faut qu'il y ait quelque chose de chaud et dense. Donc, au moment du Big Bang, l'univers était infiniment chaud et dense. Et c'est là qu'on a pu créer principalement de l'hydrogène et de l'hélium.
Mais alors, du coup, dans nos corps, enfin, dans notre monde, nous avons d'autres atomes. Et c'est là qu'on arrive à votre sujet de recherche et de spécialité. C'est que les autres atomes sont donc produits par les étoiles et vont se mélanger à ses premiers atomes.
Exactement, c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte assez récemment. Déjà, le Big Bang, il faut savoir qu'il y a un siècle, on ne savait pas que l'univers a un début.
Ah bah oui.
C'est quelque chose de très récent. Et le fait que tout le monde a entendu dire « nous sommes des poussières d'étoiles », notamment c'était popularisé par Hubert Reeves qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Bah, c'est ce qu'on a appris, c'est dans les années 50, il y a une Britannique vraiment brillante, Margaret Burbidge, qui a pu montrer que tous les atomes étaient créés dans les étoiles.
Donc elle a laboratoires, en fond.
Exactement, donc c'est un énorme four, on va dire, c'est un endroit où il fait très chaud, c'est très dense, et les atomes se rencontrent et fusionnent. Et comme ça, on arrive à créer tous les atomes qu'il y a dans notre corps, qu'il y a autour de nous. Par exemple, j'aime bien dire que l'être humain est fait en grande partie d'eau.
Ouais.
Donc l'oxygène qu'il y a dans notre corps, il vient des étoiles. Le vivant est basé sur le carbone, le carbone vient aussi des étoiles. Donc tout ce qui est en nous a soit été formé dans une étoile morte avant la naissance du Soleil, il y a 4,6 milliards d'années, soit juste après le Big Bang. Donc on n'a rien en nous qui a moins de 4,6 milliards d'années.
Bah ça ne nous invite pas à l'humilité. Quoi. Parce qu'en général, les astrophysiciens nous disent, quand vous regardez le ciel infini, on se sent tout petit, on n'est rien dans l'espace et dans le temps. Mais moi, j'aurais envie de l'interpréter dans l'autre sens. On est énorme, on est presque éternel, c'est génial.
Mais on est juste de passage aussi. Je pense que on emprunte ces atomes qu'on va rendre. Donc je pense qu'il y a un petit peu d'humilité à avoir avec ça quand même.
Oui. J'entends bien. Alors, venons-en à votre spécialité, parce que, au fond, vous êtes vulgarisateur, mais aussi un chercheur. C'est ce qui est d'ailleurs très particulier dans votre posture. J'avais reçu à ce micro Christophe Galfard, qui est passionnant, mais qui, lui, a, en quelque sorte, arrêté la recherche. Il a beaucoup travaillé avec Stephen Hawking. D'ailleurs, je recommande, en plus de votre livre, évidemment, son livre à lui, sur les dernières images du télescope Webb, c'est ça?
Exactement.
Et qui est un livre magnifique qui s'appelle Voyage vers l'infini. Donc, chers auditeurs, vous allez donc vous précipiter en librairie, vous allez prendre l'Odyssée cosmique d'Éric Lagadec. Vous allez voir que l'angle d'Éric Lagadec, c'est de montrer ce que nous, en fait, nous devons à ce passé, et vous allez compléter avec le livre de Christophe Galfard, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'images prises justement par le télescope Webb. Mais donc, Éric Lagadec, votre sujet de recherche, c'est comment les étoiles meurent, et comment, en mourant, elles produisent une sorte de poussière. Et racontez-nous ça.
En fait, c'est une longue histoire, parce que moi, ça fait maintenant plus de 20 ans que je fais de la recherche, et pour l'anecdote, ça a commencé, la poussière d'étoiles, c'est plus ou moins un hasard si je me suis retrouvé, mais c'est quand même assez étonnant.
C'est beaucoup de hasard depuis le début
voilà.
De l'émission.
Donc je me suis retrouvé, j'étais étudiant à Brest, donc à l'Université de Bretagne Occidentale, et pendant un cours, il y a un prof de physique passionnant qui m'explique que dans les accélérateurs de particules, comme on a au CERN à Genève, on peut recréer l'état de la matière juste après le Big Bang. Et ça, j'avais jamais entendu parler vraiment d'astronomie avant, je me suis dit, c'est quelque chose que j'ai envie de comprendre. Donc je suis allé à la bibliothèque universitaire, et j'ai pris le premier livre d'astronomie que j'ai trouvé, et ça s'appelait Poussière d'étoiles d'Hubert Reeves.
Ah oui, ou d'ailleurs, il parle assez peu de la poussière d'étoiles que vous étudiez aujourd'hui.
J'en ai pas mal discuté avec lui d'ailleurs, parce qu'il a appelé son livre Poussière d'étoiles, et moi je lui parlais de poussière d'étoiles parce que c'était mon sujet. C'est assez rigolo parce que justement, je lis ce livre, quelques années après, je fais mon master, donc ça s'appelait DEA à l'époque, ça montre que je suis pas tout jeune, et je dois choisir un sujet de stage. Et il y a la couverture du livre d'Hubert, c'était une nébuleuse, donc c'est une étoile en train de mourir. J'avais trouvé ça spectaculaire, donc quelque chose qui fait plusieurs années-lumière, qui a de diamètre, qui a des couleurs formidables. Et là, je vois un sujet de stage, il y avait cette photo. Et je dis, c'est ça que j'ai envie de faire. Et c'était un stage, c'était pour modéliser la poussière qui se formait autour de ces étoiles.
Mais donc cette poussière se forme au moment où elle commence à mourir, c'est ça?
Exactement. Donc les étoiles, quand elles meurent, elles commencent à expulser du gaz. Et le gaz, il va se retrouver loin de l'étoile, et par endroits, il y aura des chocs, donc le gaz va devenir plus dense. Donc, si vous avez du gaz que vous rendez froid et dense, il va solidifier, ça forme de la poussière. Et souvent, les gens ont du mal à s'imaginer à quoi ça ressemble, cette poussière d'étoile.
Ouais, c'est vrai.
J'aime bien faire l'analogie, c'est des tout petits grains, où ça fait à peu près un millième de millimètre, et il y en a principalement deux types, donc soit les oxygénés, ça va ressembler à des petits grains de sable, soit les carbonés, ça va ressembler plutôt à de la suie, mais des tout petits grains, donc d'un millième de millimètre.
Oui, donc c'est pas là qu'il y aura les planètes.
Elles vont servir ensuite. Donc cette poussière, elle va être hyper importante, notamment pour les étoiles comme le Soleil quand elles vont mourir. Oui. Parce que les étoiles produisent des atomes dans leur cœur. On est là aujourd'hui, ça veut dire que ces atomes ont été éjectés à un moment.
Oui, bah oui.
Et ça, on a mis longtemps à le comprendre. Et c'est assez récemment qu'on a compris que la poussière joue un rôle majeur, parce que la poussière va se former autour de l'étoile.
Oui.
Il y a ce qu'on appelle la convection. La convection, ça parle pas à beaucoup de gens, mais tous ceux qui ont été étudiants ont déjà fait chauffer de l'eau dans une casserole, j'imagine. Dans une casserole, quand il y a l'eau qui bout, l'eau elle monte, elle descend. Le terme technique, c'est de la convection.
D'accord.
Les étoiles, comme le Soleil en fin de vie, elles vont avoir ça. Donc il y a des bulles de convection qui font quasiment la taille d'une étoile, donc c'est des choses énormes. Ça va faire remonter les atomes à la surface et ça va favoriser la formation de poussière. Et la poussière, comme elle est un petit peu opaque, elle va absorber le rayonnement de l'étoile. Ça va lui donner un petit peu de vitesse, elle va être éjectée. Donc sans cette poussière, on ne serait pas là aujourd'hui. La poussière permet à la matière d'être éjectée. Et ensuite, vous me parliez de planètes, cette poussière va être injectée dans le milieu interstellaire, donc le milieu entre les étoiles.
Ouais.
Le milieu entre les étoiles, il est très très peu dense, mais la poussière est beaucoup plus dense. Elle permet aux atomes de se rencontrer pour former des molécules. Et ensuite, ces nuages qui sont constitués de gaz et de poussière vont s'effondrer, on va former une étoile. Et la poussière va s'agglomérer pour former des planètes.
D'accord. Et c'est là qu'éventuellement, il peut y avoir de la vie.
Éventuellement.
Ouais. Je pense à ça, parce que vous m'avez vu venir avec mes gros sabots. C'est que, du coup, votre spécialité, si on le dit scientifiquement, c'est la poussière d'étoiles. Mais ça peut être aussi, y a-t-il des vies extraterrestres? Parce qu'au fond, c'est là qu'il pourrait y avoir de la vie. Parce que d'après ce que je comprends, moi qui suis inculte, pour qu'il y ait de la vie sur ce genre de planète, un peu comme la nôtre, la Terre, il ne faut pas être trop près de l'étoile parce qu'il fait trop chaud, il ne faut pas être trop loin parce qu'il fait trop froid, et il faut peut-être être, comme vous le racontez, avoir été éjecté, avoir pris une certaine distance, et que là, la vie pourrait se développer. Donc au fond, vous cherchez des extraterrestres.
Un petit peu. En fait, l'histoire de l'eau, on n'est pas sûr non plus. C'est quelque chose, on sait que l'eau est importante, mais par exemple, c'est possible que dans le système solaire, il y ait des formes de vie sur des lunes autour de Jupiter et de Saturne, et pourtant elles sont loin de leur soleil.
Oui, vous voulez dire, pas sur le modèle de notre vie à nous, dans ce cas.
Exactement. En fait, il y a d'ailleurs une nouvelle discipline qui est émergée, qui s'appelle l'astrobiologie, qui a pour but de définir qu'est la vie. C'est une question qui est simple à poser, mais très difficile à répondre.
Bien sûr.
Mais aussi, c'est quelle forme de vie on pourrait avoir et comment chercher de la vie. Et le truc le plus facile quand on veut chercher quelque chose, c'est chercher quelque chose qu'on connaît. Donc aujourd'hui, on va chercher des formes comme on connaît sur Terre. Et c'est assez extraordinaire. Il faut savoir que tout à l'heure, je parlais du Big Bang, qui était quelque chose qu'on connaît depuis récemment, donc ça fait à peine un siècle. Les planètes autour d'autres étoiles, la première planète découverte autour d'une étoile semblable au Soleil, c'est 1995.
C'est très récent.
C'est très récent. Quand je dis ça à mes étudiants, ils me disent c'est pas si récent que ça.
C'est très récent.
C'est très récent. Ouais. Et ce qui est extraordinaire, je le dis souvent extraordinaire parce que ça m'émerveille, c'est que depuis 1995, on a trouvé plus de 5000 planètes. Aujourd'hui, on sait qu'autour de chaque étoile dans la Voie lactée, il y a statistiquement au moins une planète. Il y a 200 000.
Ça veut dire que statistiquement, c'est aberrant de penser qu'il puisse ne pas y avoir d'autre vie que nous.
C'est pas
statistiquement.
C'est compliqué. Parce qu'en fait, si on cherche la vie, on essaie de voir qu'est-ce qu'il faut pour la vie. Il n'y a qu'un seul endroit où on connaît la vie.
Ouais.
C'est sur Terre. La Terre s'est formée il y a 4,6 milliards d'années. La vie apparaît au bout de 600 millions d'années. C'est très rapide.
Vous voulez dire 600 millions d'années après ces 4 milliards.
C'est exactement.
Donc, et est-ce que c'est vrai que la vie est apparue grâce au choc avec une comète qui a apporté de l'eau, qui a en quelque sorte fécondé notre Terre aride?
Je vais juste finir sur ça, parce que ça c'est un peu plus compliqué encore. La vie se forme au bout de 600 millions d'années.
Ouais.
Ça veut dire qu'elle se forme rapidement. Si elle se forme rapidement, on se dit c'est facile.
Exactement. Ou alors c'est un miracle.
C'est là qu'arrive le deuxième point. Mais toutes les formes de vie sont issues de la même chose. Donc a priori, elle n'apparaît qu'une seule fois sur Terre. Donc on a un seul endroit où la vie est apparue, elle a apparu rapidement, ce qui nous fait penser. C'est facile,
mais
elle n'a apparu qu'une fois, donc c'est compliqué.
Ah oui, c'est passionnant ce que vous avez dit. C'est qu'en fait, au premier abord, ça dépend du regard qu'on porte. Soit on se dit, c'est facile parce que c'est venu très vite, à l'échelle du très long. Soit on se dit, mais comme c'est arrivé qu'une fois, c'est bizarre, et peut-être qu'il y a un dieu.
J'irai pas jusque là, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que nous, scientifiquement, c'est ce que je dis toujours, je pourrais jamais vous dire qu'il n'y a pas de vie ailleurs. Ouais. Si on n'en a pas trouvé, ça peut peut-être vouloir dire qu'on n'a pas bien cherché. Et pourtant, on cherche. Là, depuis 1995, on a trouvé 5000 planètes, on est capable d'analyser leur atmosphère.
C'est ça qu'on appelle les exoplanètes ?
Exactement. Ouais. Et on arrive à voir de quoi elles sont faites. On sait qu'il y en a plus de 200 milliards dans notre, rien que dans notre galaxie. Mais je ne pouvais pas non plus vous dire qu'il y a de la vie tant qu'on ne l'aura pas trouvé.
Je comprends, mais enlevez votre casquette de savant, de chercheur. Votre cœur penche de quel côté ? Vous, comme ça, le matin.
Je vais pas enlever ma casquette, mais je vais vous dire que si je passe 50% de ma vie à chercher, je suis pas complètement con non plus, si je vous dis qu'il y a des chances.
D'accord. Alors, on va reparler de cette création de la vie sur Terre après avoir écouté, et écoutez bien les paroles, Diana Ross. C'était Diana Ross avec les Supremes, j'imagine. The world is empty without you.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous avons toujours l'immense joie en ce 1er janvier d'être avec Éric Lagadec. Nous parlons de l'Odyssée cosmique, votre livre paru aux éditions du Seuil, sous-titré joliment Une histoire intime des étoiles. Et bien sûr, sous le soleil de Platon, on est content de parler de ça. Mais je voudrais revenir sur ce qu'on évoquait juste avant. Bien sûr, aussi revenir sur la chanson de Diana Ross, The world is empty. Ben non, il n'est pas du tout empty, il est plein de trucs. Et c'est justement ce que vous nous racontez. Mais vous m'avez un peu repris de façon tendre hein, quand j'ai dit que peut-être la vie sur Terre s'expliquait par... C'est quelque chose que je raconte en conférence depuis 15 ans, vous allez dire que c'est faux, par un accident astral, donc contingent en fait, qui aurait pu ne pas avoir lieu avec une comète qui pour moi aurait apporté l'eau sur Terre qui au préalable n'était pas là. Donc je me trompe.
Je dis pas que vous vous trompez, c'est que c'est pas très clair encore, on sait pas exactement, donc il y a différentes théories, ça pourrait être vu d'un astéroïde, d'une comète, et c'est pour ça que pour comprendre, je pense que pour moi ça serait important de trouver un autre endroit où il y a de la vie. Là on a des robots sur Mars, si demain les robots sur Mars trouvent des traces de vie, c'est pour moi la plus grande découverte de l'histoire, parce que je vous ai dit tout à l'heure, la vie est apparue une fois sur Terre, mais si elle aussi apparaît sur Mars... Là, quand vous dites qu'évidemment il y a de la vie ailleurs, là ça sera sûr. Ouais. Si on a eu de la vie sur deux planètes dans le système solaire...
Mais la vie sur Mars, si elle existait, elle ressemblerait un peu à la nôtre. Alors que peut-être ailleurs, il y aurait d'autres formes de vie qui n'entretiennent aucune similitude avec nous.
Oui, parce qu'en fait, la vie, elle se développe suivant les conditions où elle se forme. C'est-à-dire que nous, on est humains aujourd'hui, un truc tout simple, on regarde la lumière, on voit dans la lumière visible, c'est juste parce que c'est plus adapté pour vivre autour d'une étoile comme le Soleil.
Bien sûr. Ouais.
Donc si on vit sur une étoile différente, autour d'une étoile différente, si on a une planète avec une gravité différente, on aurait des tailles différentes aussi. Et la vie, les modifications qui ont entraîné l'apparition de l'humain, c'est plein d'accidents. Des accidents et des catastrophes, en fait. Donc, il y a eu différents types d'organismes qui ont disparu. Les dinosaures ont disparu avec un astéroïde. Mais il y a d'autres formes de vie qui ont disparu à cause de l'oxygène. Ça peut sembler étonnant. Ouais. L'oxygène, pour nous, on en a besoin pour vivre. Pour plein d'organismes, c'était un poison.
Toutes
petites choses qui vivaient il y a des milliards d'années, qui, quand l'oxygène arrivait dans l'atmosphère, bah, elles sont mortes. Et c'est pour ça que nous, on s'est développés. Et c'est toujours ça, c'est des mutations plus ou moins hasard, des mutations génétiques qui vont faire changer des choses dans les différents êtres vivants. Et les plus adaptés vont survivre et se reproduire.
Donc on pourrait imaginer une forme de vie, par exemple, sans l'eau, sans eau.
C'est pas impossible. Même si on a quand même a priori, c'est quand même important l'eau. Mais la vie nous surprend sur Terre. On voit qu'il y a tellement de formes de vie étonnantes. On trouve de la vie quasiment partout. Donc pourquoi pas de la vie sans eau? Mouille un peu.
Ouais.
Sans jeu de mots, j'avais pas fait exprès en plus.
Ah, c'est pas mal. Dans votre livre, L'Odyssée cosmique, une histoire intime des étoiles, il y a une sorte de parti pris que je trouve passionnant. Enfin, il y en a deux. Le premier, c'est que vous racontez autant l'Odyssée elle-même que, en fait, ce que vous faites vous, où est-ce que vous allez observer en Afrique, dans tel endroit pour échapper à la pollution visuelle, etc. Donc c'est très incarné. Mais aussi, vous voulez nous montrer, finalement, le rapport qu'il y a entre cette Odyssée cosmique et ce que nous vivons aujourd'hui. Et par exemple, vous nous montrez que la diversité des paysages sur Terre s'éclaire de ces 13,8 milliards d'années d'Odyssée cosmique.
Exactement. Bah déjà, tout ce qu'il y a sur Terre, ce que j'ai déjà dit, bah, vient soit du Big Bang, soit d'étoiles mortes avant. Et après, sur Terre, bah, voilà, cette évolution, c'est parce qu'il y a un truc très intéressant, par exemple, la tectonique des plaques.
Ouais.
Aujourd'hui, ça fait un petit peu peur, ça crée des séismes et ça crée des volcans. Mais ça veut dire aussi que chaque endroit sur Terre a été dans des conditions différentes sur des échelles géologiques. Et du coup, ben les organismes vivants qui se trouvaient là, ils ont été soumis à différentes conditions. Et l'évolution a fait que justement, on a eu une diversité sur Terre. Cette diversité, elle est liée à tout ça. Et je trouve ça extraordinaire. Moi, j'aime bien, j'ai eu la chance de beaucoup voyager pour mes travaux et de me rendre compte justement de cette diversité qu'on a sur Terre, qui est une grande richesse et qui est liée à notre histoire géologique et astronomique.
Alors je vais lire un extrait de votre livre pour qu'on comprenne que ce voyage dans le très grand passé est aussi, sous votre plume, une invitation à faire très attention à l'avenir et notamment à la question écologique et climatique. La plus belle chose dans cette incroyable odyssée cosmique est certainement le fait, écrivez-vous donc Éric Lagadec, que c'est l'intelligence collective qui a permis de la retracer. Ça c'est important, on retrouve cette idée de monde commun à travers le ciel. Sur la Terre on se fait la guerre, mais peut-être dans le ciel on est ensemble. L'astronomie, je reprends la lecture, est la science la plus universelle. Tout le monde peut observer le ciel pour s'évader, comprendre, s'émerveiller. Ce ciel est le plus vieil héritage commun de l'humanité qui doit se battre pour le préserver. Nous devons aussi nous rattacher à la voûte étoilée. Observer les étoiles est la meilleure façon de se remémorer cette odyssée en regardant notre passé. Cela doit aussi rendre humble et permettre ainsi, je l'espère, à notre intelligence collective de relever de la meilleure manière le défi de l'humanité, préserver une planète habitable. J'ai choisi de lire cet extrait parce qu'on a parfois un peu peur, on se dit, bah, au fond, quand on va découvrir qu'il y a de la vie ailleurs, elle sera plus possible d'ici.
C'est une des choses qui me fait peur, évidemment. Enfin, il y a une autre chose qui me fait peur, moi, c'est certains milliardaires qui essaient de faire croire à l'humanité qu'on va pouvoir aller vivre ailleurs et qu'on va continuer à polluer la Terre et qu'il n'y a pas de souci, on ira vivre sur Mars. J'aime bien faire la comparaison avec l'Antarctique. La personne avec qui j'ai fait ma thèse a passé plus de 3 ans en Antarctique, et quand il me parle de ses conditions de vie là-bas, ça me donne pas du tout envie. Et je pense que c'est un petit peu le Club Med à côté de Mars. Donc, avoir l'humanité qui vit sous des bulles dans une planète, je pense que la meilleure façon de vivre dans des bonnes conditions, c'est de préserver notre planète. Et l'humain, quand il fait des choses collectivement, il arrive à faire des choses extraordinaires. Donc, j'espère qu'on arrivera parce qu'on est, enfin, j'y pensais tout à l'heure, mais j'ai vraiment la sensation qu'on est dans un bus. Il y a un mur en face, et on ferme les yeux, on accélère. Donc j'espère qu'à un moment, les gens vont se rendre compte qu'il va falloir ouvrir les yeux.
Ouais, déjà, c'est don't look up, quoi.
Voilà, exactement. Ouais. Et le don't look up, et en plus, il y a ce... Désolé pour le spoiler pour les gens qui l'ont pas vu. Mais au final, il y a des gens qui vont aller sur une autre planète, c'est les gens les plus riches, donc évidemment, on va oublier toute une partie de l'humanité. Et quand même, il y a beaucoup de vieux hommes blancs qui se retrouvent sur une planète et je ne sais pas comment ils vont pouvoir se reproduire non plus. Donc je ne sais pas si c'est un truc qui va marcher sur le long terme.
D'ailleurs, je précise à ce sujet que vous ne cessez dans votre livre de mettre en avant les femmes dans l'histoire de la science, dans l'astronomie, en expliquant que il y en a plein et qu'elles sont souvent passées sous silence. Vous montrez aussi qu'il y a beaucoup de laboratoires d'observation en Afrique, que vous travaillez beaucoup avec l'Afrique. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que vous étiez astrophysicien à Nice, à l'observatoire de Nice.
L'observatoire de la Côte d'Azur.
De la Côte d'Azur, pardon. Au fond, c'est très intéressant parce que votre souci, c'est quand même maintenant, c'est quand même notre monde. Et donc, on a l'impression que cette façon de lever les yeux au ciel est une manière de nous prévenir de beaucoup de dangers pour notre Terre.
Ouais, moi, ce qui est important pour moi, c'est le côté inclusif. Enfin, le livre, vous me disiez tout à l'heure, je raconte mon histoire, mais c'est pas pour me mettre en avant moi, c'est pour montrer que c'est quelque chose que tout le monde peut faire.
Ouais.
J'aime bien dire, moi, je suis issu d'une famille relativement modeste. Mon père n'est même pas allé au collège. Je pense que quand il était en CM2, à cet âge-là, je devais être en seconde ou en première. Mais il m'a donné lui et ma mère m'ont donné une curiosité, une envie de découvrir. Et je pense que, grâce à l'école, on peut faire des choses. J'ai eu la chance d'être né en France. Et je me rends compte que mes collègues qui sont nés en Afrique, ils n'ont pas accès aux études. Il n'y a pas d'astrophysique dans plein de pays. Et c'est pour ça que je travaille depuis longtemps avec un collègue et ami qui s'appelle Mamadou Ndiaye et d'autres collègues un petit peu partout sur le continent africain. On essaie de rendre la science plus inclusive. C'est pas juste pour la rendre plus inclusive, mais c'est aussi parce que l'astronomie, l'astrophysique, on se pose des questions hyper complexes. Il y a plein de questions auxquelles on n'arrive pas à trouver de réponse. Et c'est, par exemple, si on exclut 50% de la population en excluant les femmes, on exclut des sources d'idées. Donc on a besoin de tout le monde. Il y a le côté humain de se dire j'ai envie que tout le monde ait les mêmes chances, mais aussi le côté commun, qu'on a besoin de tout le monde. Si on veut trouver des solutions à nos problèmes, on a besoin d'impliquer tout le monde.
Alors ça, c'est très rassurant d'entendre ça. En revanche, il y a des choses un peu plus inquiétantes dans votre livre et dans votre travail, et je pense notamment à ces trous noirs. Au fond, on a l'impression que quand on a découvert les trous noirs, on a découvert quelque chose qu'on n'avait pas imaginé. Donc le trou noir, d'après ce que j'essaie de résumer, c'est le moment où une étoile en quelque sorte meurt et s'effondre sur elle-même et avale un peu tout ce qu'il y a autour. Et alors, moi, ça m'a troublé parce que je me suis dit, en tant que novice, ce qui est beau dans le ciel étoilé, c'est que c'est comme une mémoire devant nos yeux. Mais là, il n'y a plus de mémoire, quoi. Ça disparaît et on n'a plus de traces et peut-être il y a même presque plus de mémoire que cela a été. C'est quand même assez angoissant, non ?
C'est pas si simple que ça. Il y a même peut-être une mémoire plus impressionnante que ce que vous croyez avec les trous noirs. Donc, les trous noirs, on va le faire simplement. Donc, imaginez, je lance quelque chose en l'air, la gravitation va le faire retomber. Si je lance une fusée à une certaine vitesse, elle va pouvoir s'échapper. J'explique très simplement, mais un trou noir, c'est quelque chose, pour s'en échapper, il faudrait aller à plus de 300 000 km par seconde, ce qui est la vitesse de la lumière, donc on ne peut pas s'en échapper. Mais ça, c'est la vision de Newton. Einstein a montré que c'était un peu plus compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est un des cours qui m'a le plus passionné. J'étais en master à Nice. On a fait des calculs assez complexes, et à la fin, on arrivait à montrer que si quelque chose rentre dans un trou noir, son image va rester infiniment dans le temps. Donc si, imaginez, je vous prends vous parce que vous êtes la seule personne là, vous rentrez dans
trou noir. Non, j'ai pas du tout envie. Prenez quelqu'un d'autre.
Je rentre dans le trou noir, je suis aventurier.
On va prendre Antoine Larcher, le réalisateur. Ouais. On le voit derrière la vitre.
On le fait rentrer dans le trou noir. Pour lui, les choses vont se passer plus ou moins normalement. Bon, il va, suivant le type de trou noir, il va être spaghettifié. C'est pas l'astrique le plus sympa à faire.
Mais ce qui est intéressant. Très chaud.
Ouais, il fait. Ouais. Mais l'image qui va arriver, donc la lumière qui va arriver, elle va être ralentie.
Je comprends.
Et il y aura une image figée, donc on va pouvoir voir Antoine à l'infini dans le temps.
Mais il sera plus là, en fait. C'est juste la lumière qui reste, mais lui, il a été englouti.
Exactement. D'accord. Mais nous, en dehors, on le verrait quasiment à l'infini dans le temps. Donc c'est peut-être une bonne façon de garder un souvenir. Mais j'espère qu'on va le garder au moins jusqu'à la fin de l'émission.
Mais alors quand même, est-ce que quelque chose qui rentre dans un trou noir peut en ressortir ou pas? Parce que au début, on a entendu que non, et puis finalement, il y avait cette idée que peut-être on pouvait ressortir dans un autre univers.
C'est compliqué de savoir ce qui est dans un trou noir, parce qu'il y a deux grandes choses en physique, il y a deux grandes théories. Il y a la relativité générale, c'est la théorie d'Einstein qui explique ce qui est massif, en gros, et la mécanique quantique qui explique ce qui est petit.
Ouais.
Et au centre d'un trou noir, on a quelque chose de très massif et très petit. Aujourd'hui, on n'a pas de théorie pour y répondre.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et je pense que la question la plus compliquée qu'on m'ait posée sur les trous noirs, ça venait de quelqu'un de chez vous, quelqu'un de France Inter, qui s'appelle Guillaume Meurice. La première fois qu'il m'a rencontré.
Avec qui vous faites votre spectacle,
Il m'a demandé, est-ce que si on rentre dans un trou noir, on peut retrouver la dignité de Manuel Valls? Alors je lui ai dit, l'astrophysique peut répondre à des questions complexes, mais peut-être pas jusque-là. Donc moi, je lui ai expliqué qu'un trou noir, c'était quelque chose, quand on rentrait dedans, on pouvait plus ressortir, donc c'était un peu l'inverse de la prison de la santé pour les Balkany.
Alors, on va réfléchir à on comprend un peu la note de votre spectacle, et que vous êtes un astrophysicien un peu différent, mais on va écouter quand même le son d'un trou noir qui a été enregistré, vous nous direz après comment, mais d'abord, écoutons, c'est pas très rassurant, mais écoutons quand même ce qui se passe dans un trou noir. On a à peu près entendu. Alors racontez-nous, moi je vous avoue que j'ai un soupçon. Est-ce que ça, c'est vraiment le bruit qu'il y a dedans, ou est-ce que c'est des instruments de mesure qui reproduisent éventuellement ce bruit?
En fait, c'est quelque chose qui a fait un petit peu le buzz. Donc ouais. C'est la NASA qui a sorti ce son qui fait un petit peu peur. Tout je ne sais pas fait, si ouais. C'était au moment d'Halloween, quelque chose comme ça.
Ouais.
C'est quelque chose qui s'appelle la sonification. Donc la sonification, il faut savoir que quand on a des ondes, n'importe, c'est une onde lumineuse par exemple, ben, on peut la transformer en onde sonore. Et en changeant la fréquence, ouais. La rendre audible à l'être humain.
D'accord.
Donc si on est dans l'espace, le son se propage pas. Là, pourquoi le son se propage? Je vous parle parce qu'il y a des molécules d'air qui vont se déplacer, ce qui fait que le son va pouvoir se déplacer.
Voilà.
Il y a pas d'air, il y a pas de molécules, il y a pas assez de densité dans l'espace, donc il y a pas de son. Mais c'est quelque chose qui peut être très intéressant. J'avais passé une super émission avec Mathieu Vidard à la ouais. Terre au Carré, avec une astronome aveugle de Porto Rico qui utilisait ce genre de sonification pour pouvoir faire de la science. C'est-à-dire qu'elle est aveugle, donc elle, a priori c'est compliqué pour faire de l'astronomie. Elle transformait les images en son et ça lui permet de faire des choses extraordinaires. C'est vraiment une rencontre que j'ai faite sur France Inter ouais. qui était incroyable de voir cette personne qui écoutait les étoiles.
C'est ça. Mais alors, je reviens à ma question pour savoir si on peut être rassuré ou si c'est plutôt inquiétant. Je vous propose d'écouter Stephen Hawking nous parler des trous noirs. On va voir si c'est rassurant ou pas.
From the outside.
De l'extérieur, vous ne pouvez pas dire ce qu'il y a à l'intérieur d'un trou noir. Vous pouvez jeter des téléviseurs, des bagues en diamant, ou même votre pire ennemi dans un trou noir. Et tout ce que ce trou noir retiendra, c'est une masse totale et un moment cinétique avec une charge électrique. La mécanique quantique implique que tout l'espace est rempli de paires de particules virtuelles, puis ces particules qui se matérialisent constamment par paires se rejoignent et s'annihilent. Un membre de cette paire de particules virtuelles peut tomber dans le trou noir, laissant l'autre membre sans partenaire avec lequel s'annihiler. La seconde particule peut tomber dans le trou noir après son partenaire. Mais elle peut aussi s'échapper vers l'infini, où il semble être émis des radiations par le trou noir. Le message de cette conférence est que les trous noirs ne sont pas aussi noirs qu'ils sont décrits. Ils ne sont pas cette éternelle présence qu'on leur attribuait autrefois. Les choses peuvent sortir d'un trou noir à la fois à l'extérieur et éventuellement à travers un autre univers. Donc si vous sentez que vous êtes dans un trou noir, n'abandonnez pas. Il y a une issue.
Ben voilà, on est rassurés, non ?
Ouais, mais je trouve... Il y a une fascination dans la culture populaire pour les trous noirs,
ouais.
Et souvent une peur. Et c'est une question que j'aime bien poser aux gens. En fait, d'ailleurs, je vais vous la poser.
Allez-y.
Alors, imaginons, on remplace le Soleil par un trou noir qui fait exactement la même masse que le Soleil. Qu'est-ce qui va arriver à la Terre, à part le fait qu'il n'y aura plus de lumière ?
Elle va être avalée.
C'est la réponse que me donnent toutes les personnes. Mais non, en fait, si on remplace... Le Soleil par un trou noir de la même masse que le Soleil, la gravitation ne va pas changer, donc le mouvement de la Terre ne va pas changer.
Oui, mais on va avoir froid. Et ça,
il y aura plus de lumière, il fera froid, mais en fait, souvent, les gens imaginent les trous noirs comme un aspirateur géant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on tourne autour d'un trou noir qui fait plusieurs millions de fois la masse du Soleil,
ouais.
Qu'on a vu pour la première fois il y a un an et demi. C'est
grâce au télescope James Webb, c'est ça ?
C'est pas le télescope James Webb, c'est encore... J'aime bien parler de collectif. Là, je pense que c'est l'une des plus belles réalisations collectives en astronomie depuis 10-15 ans. C'est des astronomes du monde entier qui ont construit un télescope géant de la taille de la Terre.
Incroyable.
Ils ont fait combiner de la lumière de télescopes qui étaient au Chili, à Hawaï, en Antarctique. Et ils ont réussi à faire des images incroyables. Et cette image, ce trou noir, il est énorme, mais il est très loin. Donc on essaie d'observer quelque chose de très petit dans le ciel. Et l'analogie qu'avaient fait les gens, c'était présenté à Munich... L'endroit où j'ai la chance de vivre, ça me parlait beaucoup.
Ouais.
Ils imaginaient quelqu'un à Munich qui tient un verre de bière, et quelqu'un à New York qui veut faire une photo, non pas du verre de bière, mais d'une bulle dans le verre de bière. Donc c'est pour dire avec ce télescope de la taille de la Terre.
C'est aussi précis que ça, d'accord.
C'est c'est hallucinant, et c'est ces gens qui ont travaillé ensemble. Encore une fois, il y a ce côté collectif de la science qui, pour moi, est très important. Souvent, on met en avant une ou deux personnes. Sûr, ouais. Mais il y a ce côté collectif qui fait qu'on arrive à faire des choses incroyables.
Et c'est très, très présent dans tout ce que vous racontez, cette idée comme ça d'un monde et d'un ciel commun.
On y a mourir depuis ce matin. J'ai dans la tête des idées bêtes, je pense à rien. Je regarde le vide, sauf quelquefois. Où le soleil s'invite à ma fenêtre, échange la poussière en paillettes. Seul dans mon lit, ça me rend heureux. D'écrire des chansons sur ces instants merveilleux. Et dans mon fort intérieur, j'ai le temps de regarder pousser. Du bien d'être immobile, couper les lignes et voir enfin tout ce qui s'anime dans les recoins, les fourmis rouges, le ciel qui bouge à peine, les nuées de crachin. Pourquoi toujours vouloir faire mieux, travailler tard pour quelques sous, on ira boire pour être sous, pour aller mieux, mais mieux que quoi? Ça me suffit de brasser l'air avec mes bras. Et dans mon fort intérieur, j'ai le temps de regarder pousser les fleurs. Ah, 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 non, je n'ai rien d'autre à faire. Rien à détruire et personne à qui plaire. Je vis de presque rien. D'amour et d'insouciance.
C'était le génial Voyou avec le titre D'amour et d'insouciance.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Ça me rappelle des bons souvenirs, parce qu'on avait eu Voyou, Éric Lagadec, à votre micro, vous qui êtes aussi chanteur, et il nous avait fait partager son, une odyssée à lui aussi, finalement, un peu différente. Mais revenons à votre livre, L'Odyssée Cosmique, sous-titré Une histoire intime des étoiles aux éditions du Seuil. Et revenons aussi à ce qu'on évoquait. On a compris que les trous noirs, on savait pas encore tout de ce trou noir, notamment est-ce qu'on peut en ressortir ou pas, on n'a toujours pas compris, mais on n'a pas le temps, on va pas faire une émission entière dessus. Je voudrais qu'on glisse maintenant du trou noir à la matière noire. Alors vous allez me dire, il est marrant, on sait encore moins ce que c'est, mais moi ce que j'ai compris, et vous avez, à chaque fois que je dis ça, vous me dites que je me trompe, donc je reprends le risque à nouveau, mais ce que j'ai compris, c'est que, un, on ne comprend que à peu près 5% de la matière de l'univers, que le reste, on l'a appelé matière noire faute de mieux, qu'on ne sait pas ce que c'est, donc c'est quand même dingue, mais que on sait sa fonction, enfin en tout cas son effet, et son effet est d'accélérer l'expansion de l'univers. Donc moi, je comprends plus rien, je me dis comment on peut ne pas savoir ce que c'est, mais comprendre que ça a pour fonction d'accélérer l'expansion de l'univers.
Attention, il y a deux choses.
Voilà, donc, je savais que j'avais encore dit une connerie.
5%, c'est ce qu'on connaît, c'est la matière normale. On s'est rendu compte dans les années 70, en regardant notamment les étoiles et les galaxies bouger, Parce que la façon dont les choses bougent, c'est lié à la gravitation, donc à la masse, qu'il y avait une masse qu'on n'arrivait pas à observer. Ah oui. On a cherché, on a fait plein d'observations, on n'arrive pas, et c'est quelque chose qu'a priori on ne sait pas quel type de matière c'est, donc on appelait ça la matière. Enfin, ça vient d'allemand, c'est dunkel, donc c'était matière sombre, mais en français ça a été traduit souvent par matière noire. Mais il y a, dans les années 90, on s'est rendu compte, on savait déjà que l'univers était en expansion, on s'est rendu compte que cette expansion était accélérée.
C'est ça qui est fou.
Vous êtes au volant de votre voiture, vous accélérez, vous appuyez sur l'accélérateur, la voiture accélère, qu'est-ce qui se passe? Vous donnez de l'énergie à votre voiture. Donc si quelque chose accélère l'expansion, c'est qu'il y a une énergie. Et cette énergie, on ne sait pas ce que c'est. Et si on fait des modèles, notamment de ce fond diffus cosmologique, donc la première lumière qu'on a vue, elle nous permet de nous représenter le contenu de l'univers, et on se rend compte justement qu'on ne connaît que 5%, et les 95% restants, c'est la matière noire et l'énergie noire.
Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui vous émerveille le plus, Éric Lagadec? C'est ce que vous arrivez à comprendre, ou c'est le contact avec ce que vous ne comprenez pas? Ma question n'est pas rhétorique, essayez de répondre honnêtement. Non, ce qui vous excite vraiment, c'est quand vous avez capté un truc et c'est dingue, ou c'est quand, au fond, vous ne comprenez rien et c'est merveilleux?
En fait, c'est un peu des deux, parce que je pense que l'excitation principale, moi je suis observateur, j'observe beaucoup, notamment avec le télescope VLT, le Very Large Telescope au Chili, c'est se dire qu'on a une machine incroyable et qu'on observe quelque chose que personne n'a jamais vu. Donc déjà, ce sentiment de dire on va voir quelque chose que l'humanité n'a jamais vu. Et des fois, on fait des petites découvertes. C'est souvent, les gens s'imaginent le moment Eureka. C'est des petites choses qu'on découvre. Donc, il y a ce côté-là qui est, j'ai découvert quelque chose.
Oui.
Mais souvent, quand on découvre quelque chose, ça apporte des questions. Donc, il y a ce côté-là. C'est une connaissance qui avance perpétuellement et d'interagir avec des gens. Donc, chaque fois qu'on a des questions, moi, j'ai la chance à l'Observatoire de la Côte d'Azur. J'ai plein de gens bruyants autour. Donc, on passe notre temps à apprendre, à discuter. Moi, je vais faire une petite découverte, les copains à côté aussi. Et tous les jours, on apprend, il y a cet échange, et on fait avancer la connaissance pour l'humanité. Je trouve que c'est quelque chose que, ça qui me donne envie de me lever le matin.
Bah, c'est sûr que ça a du sens comme métier, de faire avancer la connaissance pour l'humanité. Quand je vous écoute et quand je vous lis l'Odyssée cosmique, je réfléchis au mot métaphysique. Vous savez que dans la tradition philosophique occidentale, le mot métaphysique est né lorsque quelqu'un qui bossait avec Aristote, après la mort d'Aristote, a rangé les différents livres d'Aristote sur une immense bibliothèque. Et il y avait plein de livres qui étaient clairs, c'était sur les animaux, les typologies d'espèces vivantes et tout. Et puis il y avait des livres bizarres. Qu'est-ce que l'être, la science de l'être en tant qu'être? Et tous ces trucs bizarres, ils les ont rangés après les livres sur la physique, et ça s'est appelé métaphysique. Méta voulant dire à la fois après et au-delà. Avec cette ambiguïté, est-ce que c'est juste après ou est-ce que c'est au-delà? Mais au fond, ça marche plus cette définition. Quand on fait de l'astrophysique, on a l'impression que la métaphysique, elle est au cœur de la physique en fait.
Non, moi je fais une distinction assez claire. Parce que souvent, les gens vont me poser la question, je pense que c'était ce que vous avez dit dans l'introduction. C'est par exemple, je vais prendre un exemple. L'astrophysique explique l'univers observable semble avoir commencé par le Big Bang il y a 13,8 milliards d'années. La question que tout le monde va me poser quand je vais raconter ça va être qu'est-ce qu'il y a avant?
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'univers? Et aujourd'hui, la physique n'est pas capable d'y répondre. Donc, ma définition de métaphysique, c'est ce qui ne peut pas être expliqué par la physique. C'est une définition personnelle. Mais et c'est des questions qui reviennent à chaque fois quand on parle d'astrophysique. Moi, je suis assez terre à terre. Pas forcément, mais. Mais je me dis que l'univers est un assez grand terrain de jeu. Et je me pose déjà assez de questions. Il y a déjà pas mal de choses qui se passent dans ma tête. Je pense que les gens qui me connaissent bien le savent.
Ouais.
Donc déjà, j'essaie de répondre à ces questions. Et j'ai envie de dire, j'ai presque pas le temps pour aller au-delà. Je sais qu'il y a plein de modèles. C'est des choses hyper intéressantes.
Mais par exemple, je vous interromps parce que, en fait, c'est le sujet. On est habitué, par exemple, à entendre qu'il y a deux infinis, notamment chez Pascal, dans les pensées de Pascal. L'homme est un milieu entre deux infinis. Les deux sont aussi effrayants, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Bon, ça, c'est un peu une catégorie mentale habituelle. Sauf que le peu de choses, tout est relatif, mais qu'on comprend, c'est qu'en fait, l'infiniment grand, il a été infiniment petit. Puisque la tête d'épingle, c'est elle qui, finalement, pour des raisons en partie énigmatiques, s'est mise à exploser, à créer de l'expansion infinie, qui en plus s'accélère, comme vous l'avez dit, avec la matière noire.
Donc, l'énergie noire.
L'énergie noire, pardon. Donc, dans ce cas, il n'y a qu'un infini. Il n'y en a pas deux.
Vu comme ça, c'est intéressant, mais il y a aussi l'infini dans le temps. Parce que ça, on a tendance à oublier. On pense à l'infini dans l'espace, mais il y a l'infini dans le temps. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Et je pense que justement, ça a été très compliqué pour l'humanité.
Ouais.
Il faut savoir que Einstein, quand en 1915, il publie sa théorie, il se rend compte que l'univers peut pas être stationnaire, mais il veut pas y croire. Donc Einstein, il rajoute une constante pour que son univers soit constant. C'est quelque chose, c'est quelque chose de très compliqué en science. C'est que quand on fait de la recherche scientifique, on a plein de biais. Il faut réussir à s'affranchir de ces biais.
Bien sûr.
Et c'est pas toujours facile.
Alors récemment, on a vu, grâce au télescope James Webb, des images nouvelles. Et je voudrais vous faire réagir à ces images nouvelles, et d'abord à ce petit son.
3, 2, unité, top.
13h20, heure de Paris, la fusée Ariane 5 décolle, avec à son bord le télescope spatial le plus grand et le plus perfectionné jamais créé. Après 27 longues minutes de suspense et déjà 10 000 km parcourus, il se détache sans encombre de l'appareil.
Séparation Webb Space Telescope. Go Webb !
Un soulagement pour les scientifiques. 30 ans qu'ils attendaient ce jour historique.
Et alors, Éric Lagadec, on a vu des images qu'on n'avait jamais vues. Laquelle vous a paru la plus folle ?
Bah déjà, il y a le souvenir ému de ce lancement, le 25 décembre. Ouais. C'était le repas de Noël. Et moi, je pense que c'est un truc qui m'a marqué à vie. L'image qui m'a le plus marqué, je pense que c'était... Ils en ont sorti 5 6 mois après. La première a été montrée par Joe Biden, donc il y avait un petit peu c'était une image de des confins de l'univers, on voyait les premières galaxies. Moi, celle qui m'a le plus marqué, c'est celle qui s'appelle les falaises de la Carène. C'est une image splendide où on voit d'un côté un ciel bleu, c'est des fausses couleurs évidemment, c'est l'infrarouge, ouais. Et de l'autre côté de la poussière et du gaz d'un orange assez impressionnant où on voit des étoiles en train de se former. Cette image, elle est d'un esthétisme vraiment marquant. Elle est très très belle.
C'est dingue, c'est un mouvement qui est arrêté, qui est photographié en fait, et on voit la création au fond.
Exactement.
De ce qui rend possible peut-être la vie d'ailleurs.
Et elle est belle, et elle nous apprend des choses. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est aussi pour ça que je mets beaucoup d'images sur Twitter, parce qu'il y a le côté, la belle image attire le regard, et après on va comprendre des choses. Et là on se rend compte qu'on est en train de voir des milliers d'étoiles en train de naître, on est en train de voir notre passé. Quelque part, on est en train de voir ce qui s'est passé il y a presque 5 milliards d'années quand le Soleil et la Terre se sont formés. Voilà. Et je trouve ça incroyable de dire qu'on est une génération qui vit un âge d'or qui permet de découvrir des choses incroyables.
Et c'est d'autant plus fou qu'il y a aussi des images qui donnent à voir peut-être ce qui va se passer quand le Soleil va s'éteindre.
Ça montre aussi, encore une fois, ce qui va se passer. Donc, il y avait la Carène qui montrait le passé de notre système solaire, et l'anneau austral qui montrait le futur dans 5 milliards d'années, quand l'étoile, le soleil va éjecter son gaz, va former de la poussière d'étoile. Ça va faire un beau spectacle. Donc, j'ai pas envie de donner rendez-vous à tout le monde dans 5 milliards d'années, mais ça sera quelque chose d'assez beau à voir quand même.
Eh ben, merci beaucoup, Éric Lagadec. C'était une belle façon de voyager avec vous dans l'Odyssée cosmique. Je vais en profiter pour résumer, comme je le fais chaque matin pour nos auditeurs, la philosophie de la vie qui a été la vôtre et qu'on a entendu, sensible, je dirais, une philosophie de la curiosité, une philosophie de l'émerveillement, une philosophie au cœur de laquelle le rapport à la beauté se veut pédagogique. Vous avez dit très joliment en commentant les images du télescope Webb que non seulement c'est beau, c'est dingue, c'est fascinant, mais ça nous apprend des choses. Et puis on a aussi entendu en vous quelque chose d'assez intéressant qui est l'astrophysique inclusive. Il était temps. Merci beaucoup Éric Lagadec. Je précise que vous êtes avec Guillaume Meurice en spectacle le 20 janvier à Dijon, le 2 février à Grenoble, et que ça s'appelle Vers l'infini, mais surtout pas au-delà. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Antoine Larcher avec à la technique Baptiste Collion. Elle a été préparée, merci beaucoup, par Estelle Gap et à la musique, et évidemment, Valentine Chaudebois. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain matin, 9h exactement, sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter, et nous aurons le privilège d'être avec la grande romancière essayiste Nancy Houston. À demain et bonne année.